Et tout de suite, retrouvez l'émission Au Jardin des Mots.
Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral pour cette émission Au Jardin des Mots, un peu particulière aujourd'hui puisque c'est moi qui vais commencer par poser les questions à Christiane Belleuil. Bonjour Christiane.
Bonjour Odile.
Et puis il y a bien sûr votre invité Jean Guillon, conteur, bonjour.
Can I do for you? Vous m'entendez un peu là?
Oui. Bien, on revient à Christiane Belleuil, donc on va faire un petit tour d'horizon, puisque vous allez bientôt quitter votre fonction de directrice de la médiathèque départementale des Alpes-de-Haute-Provence, conservateur, c'est comme ça qu'on dit aussi.
C'est comme ça que l'on dit, conservateur de la médiathèque départementale,
voilà.
Tout à fait.
Alors, c'est terminé dans quelques jours,
dans quelques semaines. Oui, tout à fait, tout à fait. Après une aventure qui a duré quand même 10 ans et demi, presque 11. Et voilà, et donc je quitte le ciel de Provence pour aller vers plus de hauteur, on va dire, puisque je pars dans les Hautes-Alpes.
Alors comment on fait quand on arrête ce métier très prenant et qui vous a quand même bien passionné, avec notamment les rencontres de la parole dont on reviendra revenir sur votre travail, ces rencontres que vous avez faites aussi pendant toutes ces années.
Oui, mais il n'y a pas que ça, hein. Revenir sur le travail, c'est vrai que c'est une période un petit peu difficile, un petit peu émouvante aussi, puisque là, je viens de passer deux jours avec la nouvelle directrice de la médiathèque départementale, qui s'appelle Agnès Haïli et qui nous vient du Haut-Jura. Donc c'est vrai que c'est le temps de faire un retour sur son parcours et voilà, donc avec ce qui a été mis en place, avec les projets qui ont avorté, ceux qui ont réussi, et c'est un temps un petit peu particulier, voilà. Donc il y a eu des ouvertures de bibliothèques, beaucoup, hein, il y en a eu 25, des toutes petites bibliothèques mais à l'échelle du territoire, et puis qui sont des lieux de vie et de rencontre pour les petites dans les communes. Et puis, il y a eu des actions autour du livre différent, il y a eu des actions autour de la poésie, il y a eu effectivement les rencontres de la parole dont nous parlons davantage en ce moment.
Donc, tout ça, ça va être repris?
Alors, moi, je tiens essentiellement à ce qu'on dise et à ce qu'on sache que quand on est directeur d'une médiathèque départementale, certes, il y a le côté... que j'allais dire obligatoire, qui relève de l'aménagement du territoire, de la desserte locale, etc. Mais il y a aussi une part de créativité et d'engagement qui sont des engagements personnels. Dire moi, ma compétence, elle était dans le livre différent, hein. Le livre différent, la poésie et l'oralité, parce que j'avais beaucoup travaillé dans ces domaines-là. Mais peut-être que le nouveau directeur va inventer, je sais pas quoi, un salon du livre, des rencontres autour du cirque ou de la magie. Ça, c'est la seule chose dont on soit sûr, c'est que au niveau du département, il y a des choses qui se feront et qui se feront sous sa houlette, donc hein, avec un engagement lecture publique qui n'est plus à démontrer quand même.
Quels sont vos plus beaux souvenirs de ces 10 ans?
Oh là là, il y en a énormément, énormément. Mais vous savez, je suis quelqu'un d'un peu caractériel, c'est-à-dire que j'efface de ma tête très 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 vite tous les mauvais souvenirs et il ne me reste que les bons. Donc voilà, il y a eu la rencontre avec Coralia Rodriguez, la rencontre donc qui vient de Cuba. Il y a eu les rencontres tout à fait étonnantes avec Robert Sevenkroes et son épouse Joanne Poney. Il y a eu la rencontre avec Jean David. Il y en a plein. Je crois que aucun des conteurs que j'ai invités ne m'a laissé un mauvais souvenir, heureusement. Des souvenirs, il y en a pléthore. Et il y a surtout ce qui m'a beaucoup touchée, c'est l'attention du public, la façon dont on n'a pas eu à guerroyer beaucoup pour que les enfants restent à côté de leurs parents et ne fassent pas une espèce de petit parterre bruyant et indocile devant le compteur. Mais on a bien retrouvé cette ambiance de... comment dire, de veiller. Vous savez, avant, lorsque au coin du feu, en cercle et à la nuit tombée, on se retrouvait pour se raconter des histoires. Et c'est vrai que je trouve que le public a vraiment suivi avec attention, avec ouverture d'esprit, avec... ça, ce sont de très jolis souvenirs. On a arpenté les routes du département, on a trouvé dans les tout petits villages des placettes absolument extraordinaires, des tilleuls ou des platanes qui nous ont fait ombrage. C'était vraiment de très jolis moments. Et puis la rencontre avec les bibliothécaires locaux, qui pour le plus souvent sont des bénévoles engagés, investis, pour qui la vie n'est pas toujours facile, hein, parce qu'on ne s'improvise pas bibliothécaire quand même, et que c'est passionnant, mais c'est quelque part un petit peu compliqué, parce qu'il faut pouvoir conseiller les livres, il faut pouvoir entrer en formation, et ça, il faut du temps. Et puis, il y a toujours un petit peu la, non pas la bagarre, mais la tension avec les... à la fois les habitants et puis souvent les élus qui ne savent pas forcément ce qu'est une bibliothèque et ce que ça exige. Lorsqu'on entend des gens dire « la bibliothèque est encore fermée, mais elles sont payées à ne rien faire ». Mais non, il y a du travail, il y a des livres à couvrir, il y a des livres à acheter, il y a des livres à indexer. Donc voilà, c'est tout un travail de pédagogie au quotidien. Et je suis admirative devant tous ces bénévoles qui s'engagent sur ces voies-là. Quoi. Bon, alors après, c'est vrai que c'est aussi l'occasion de lancer un appel au bénévolat un petit peu plus jeune quand même, parce que la moyenne d'âge, elle n'est pas à 25 ans, hein, c'est clair. Et on sait bien que les bibliothèques, dans un très grand nombre de communes, ne vivent que parce qu'il y a du bénévolat.
Et ça, c'est pas possible quand on crée une bibliothèque de créer un poste de salarié en même temps.
Si c'était facile, ça se saurait. Je crois que les finances publiques sont ce qu'elles sont, et puis la taille des communes n'est pas non plus suffisamment importante pour qu'il y ait des créations de postes. Et de surcroît, la profession de bibliothécaire est une profession compliquée. Hein. Voilà.
Donc vous lisez beaucoup, vous, Christiane Belleuil, depuis longtemps.
Je lis de moins en moins, parce que je fais de plus en plus administratif. Mais non, la lecture, c'est une. Il faut avoir plusieurs livres. On a un livre de poésie, on a un livre de contes, on a un livre parce qu'il faut bien s'instructionner sur le temps qui court. Mais ne me demandez pas quelles sont mes dernières lectures ou mes lectures les plus passionnantes, non. Parce qu'il y en aurait trop. Et oui, on lit beaucoup.
Il y a bien un auteur préféré parmi...
Non, est-ce que je vous répondrai que je relis toujours Proust avec autant d'émerveillement ou que je tombe régulièrement dans Giono? Voilà, mais après, dans les auteurs contemporains, on fait des découvertes au quotidien. Quoi. C'est pas, le dernier livre qui m'est vraiment bouleversé, c'est un livre de Goliarda Sapienza qui s'appelle La joie de vivre. Non. Enfin, quelque chose comme ça, qui est l'histoire d'une femme et d'une femme libre et d'une femme engagée. J'aime bien ces personnes-là.
Alors, vous lisez un peu, moins
non,
que...
Je lis beaucoup quand même, mais
beaucoup,
bon.
Mais en tout cas, le fait d'arrêter ce poste ô combien important, puisque vous partez à la retraite, va vous laisser plus de temps pour l'écriture, puisque vous avez écrit, vous écrivez. Et ça, c'est important d'avoir le temps de vous y mettre pleinement.
Je vais avoir le temps de lire, je vais avoir le temps d'écrire, je vais avoir le temps de faire des photos, je vais avoir le temps de vivre une deuxième vie, enfin, voire une troisième, parce que je n'ai pas toujours travaillé dans les bibliothèques non plus.
Oui, dans quoi donc?
Ouf. Ça va de la création de modèles pour Annie Blatt, en passant par la sécurité sociale, en revenant sur des caisses de jeux en casino, voilà, dans toute une première partie de ma vie, je n'étais pas dans les bibliothèques.
Alors, qu'est-ce que vous nous préparez ? Vous avez déjà fait éditer un livre, des nouvelles ?
Oui, alors j'ai des nouvelles qui sont parues. Il y a deux livres chez Amapola, dont un qui est une écriture croisée, qui est née d'une résidence d'écriture. Voilà, là, je suis sur un recueil de nouvelles, effectivement, et sur des livres pour enfants.
Ah oui ?
Oui, oui. Il y a un doudou qui est très, très triste de se retrouver tout seul dans le couloir.
Donc ça, c'est à venir bientôt pour les enfants.
Bientôt. Très bientôt, j'espère. Et puis, le temps d'écriture, le temps de se poser, le temps de se retrouver. Hein, parce que lorsqu'on a une vie professionnelle chargée, je dirais, parfois on s'oublie. Alors voilà, il faut aussi le temps de se retrouver. Ça, c'est un bonheur.
Et vous avez animé cette émission Au Jardin des Mots pendant 2 ans avec nous, je crois, sur Fréquence Mistral. Est-ce qu'éventuellement vous reviendrez sur Digne ou éventuellement continuerez sur Briançon ?
Ah ben j'aimerais bien continuer sur Briançon, oui, tout à fait. C'est ce que j'ai aimé dans cette émission de Jardin des Mots, c'est de, j'allais dire, passer de l'autre côté du miroir, mais c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que inviter des gens qui sont connus, des gens qui sont dans la vie locale, plutôt culturelle, puisque c'est un peu mon axe de travail quand même, et voir qui ils sont vraiment, ça a un côté pour moi extrêmement fascinant, entre l'apparence et l'authenticité de l'être, on va dire, ce qui est, c'est amusant de voir ce qui porte les gens et combien parfois ça peut être l'austérité de l'apparence qui cache une immense tendresse, ou bien très exactement l'inverse, des gens qui sont en apparence très très coulants et qui ont une immense exigence. Donc c'est amusant, c'est ce qui fait la rencontre aussi. J'ai rencontré Odile Frison, j'ai rencontré Alain, j'ai rencontré des gens fascinants aussi.
Oui, vous pouvez le dire, ça.
Je peux le redire.
Bon, eh bien, en tout cas, j'espère bien que nos routes se croiseront encore souvent, Christiane Belœil, même si vous partez vivre dans le Briançonnais. Et puis peut-être on va écouter une chanson de Barbara, une personne que vous aimez beaucoup.
Et que vous chantez merveilleusement bien.
Oh, c'est pas pour ça que je l'ai mis. Mais... Et si on écoutait « Dis, quand reviendras-tu » ?
Ah ben voilà,
Christiane.
Avec plaisir.
Allez, on l'écoute et puis on se retrouve juste après.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit, cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavirai comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas, et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se
rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde et mes merveilles. J'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin. Je n'ai pas la vertu des femmes de marins. Mais quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne s'en rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus.
Et voilà la magnifique Barbara qui nous chantait « Dis quand reviendras-tu ?»« Dites quand reviendrez-vous, Christiane Belleuil ?»
Peut-être jamais, peut-être demain, allez savoir de quoi la vie sera faite.
Christiane, c'est encore, et c'est le dernier jour des Rencontres de la Parole, édition 2016, c'est la 11e rencontre, avec un invité, un conteur, c'était Jean Guillon, donc toute cette semaine que nous entendrons tout à l'heure. Comment se sont déroulées ces rencontres? Comment vous avez vécu, vous, cette dernière
aventure? Alors, cette dernière édition, dernière aventure dans le temps, a été très, très différente. Puisque, vous le savez, nous avons toujours fait le choix d'avoir des conteurs et des musiciens en résidence qui donc travaillaient ensemble toute la semaine et tous les soirs, il y avait deux veillées, etc. Cette année, nous avons ramassé un petit peu tout cela vers notre territoire. Et le choix, après appel à projet, s'est porté sur Jean Guillon et ses Jean Guillon, qui est à côté de moi, qui est complètement absent. Il est dans une immensité intérieure à laquelle nous n'avons pas accès. Mais il nous a promené pendant ces 10 jours au travers de 4 spectacles tout à fait différents pour lesquels on a arpenté à nouveau nos petites routes de Provence pour aller dans des lieux où il y a des bibliothèques qui fonctionnent. Parce que je le dis, je le redis, ces Rencontres de la Parole ont été créées pour mettre en lumière le travail des bibliothèques, pour montrer que les bibliothèques n'étaient pas des lieux un peu poussiéreux de prêt de livres, ou, comme dit la perfidie, on prête des livres à des gens qui n'ont rien d'autre à faire que de lire, n'est-ce pas? Mais des lieux de partage, des lieux de rencontre et des lieux de découverte. Voilà. Je viens de dire des petites choses là qui... Et c'est du vécu, hein. C'est un maire dans une toute petite commune qui n'était pas dans ce département-là, qui m'a dit, mais enfin, Madame Belleuil, ne me dites pas qu'il faut toutes ces compétences, tout ça, pour prêter 4 livres à des gens qui n'ont rien d'autre à faire, quand même. Voilà. Donc, je pense que la bagarre sur la lecture publique, elle est encore très, 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 très actuelle. Et donc, ces Rencontres de la Parole, eh bien, on les donnait dans les communes où il y a un engagement lecture publique. Et c'est toujours des bibliothèques qui nous ont accueillis. Cette année aussi. Donc, on va peut-être laisser Jean nous dire peut-être ce qu'il a ressenti dans ses différentes rencontres et comment il vit cela.
Bonjour Jean Guillon.
Bonjour.
Et bienvenue dans notre studio.
Merci.
Alors, on va venir assez. Donc, vous allez encore jouer ce soir, compter ce soir en présence de musiciens pour le Chant des Possibles, un spectacle que vous avez déjà joué hier à Puymoisson.
Oui.
Alors, est-ce que vous voulez nous en dire plus sur celui-ci?
Venez.
Ça suffit pas,
Jean. Ça suffit pas? C'est-à-dire que j'ai été introduit comme une espèce de bonhomme qui va faire partager ses fantasmes, mais c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout, je dément. Le spectacle est présenté, il s'appelle Le Chant, comme la chanson, des possibles. Parce que ça se réfère à une chose très étrange qui m'est arrivée au début de ma fonction comme artiste. Donc je faisais du cirque et à un moment donné, je me suis rendu compte de toutes les possibilités que cela offrait que de faire ce métier d'artiste et que j'adore. Ceci posé à propos des fantasmes et des fantaisies, je crois que c'est ce qui est le plus nocif dans le métier. Et le plus pervers, Et c'est pour ça que je ne l'utilise pas. Par contre, dans ce spectacle, j'utilise des rêves. Depuis toujours, j'écris mes rêves. Et là, j'ai plongé, j'ai fait des ballons-sondes. Puis j'ai même voulu systématiser ce matériau, ce qui est complètement débile. Alors je me suis vite arrêté. Et puis, parce que je m'étais rendu compte que dans un autre spectacle, j'avais utilisé juste quelques images de rêves et que ça avait été perçu comme étant onirique. Donc, le champ des possibles, c'est une approche qui prétend qu'il n'y a pas de frontière entre l'état de veille et l'état de rêve. Pas plus qu'il y en a entre la parole et la musique. Et c'est pour ça que je suis accompagné de trois musiciens excellents qui jouent du jazz, jazz manouche, du swing. D'abord, le batteur Samuel Bobin. Ensuite, deux guitaristes, Alexandre Morier, plutôt guitariste soliste, et Olivier Dambeza, qui est lui plutôt pompiste, comme on dit dans le jazz manouche. C'est-à-dire qu'il assure la rythmique, mais il a aussi une très très belle solo. Et voilà, à tous les trois, on est parti sur un texte. D'abord, on raconte un texte, et donc on est parti sur un texte traditionnel qui s'appelle Mushkil Gusha, qui est un vieux conte soufi très joli et très merveilleux, et qui ensuite débouche sur des séquences d'aventures tout à fait bigarrées et qui font s'entrecroiser la veille et le rêve. Voilà pour ce spectacle. Mais, chers auditeurs, si vous êtes collé, l'oreille collée à votre poste depuis toute la journée, ou alors si vous êtes distraitement en train de faire autre chose, sachez que les rencontres de la parole, c'est quelque chose.
Voilà qui est dit. ça vous permet, vous aussi, de rencontrer un public. Là, vous proposez quatre spectacles. C'est facile de passer de l'un à l'autre?
Ce qui est facile, c'est ce qu'on aime faire. Ce qui est difficile, c'est ce qu'on n'aime pas faire.
D'accord. Donc, c'est facile pour vous. Donc, ce soir, c'est avec de la musique et les autres spectacles. Donc, c'était...
Des contes traditionnels, provençaux. Mm-hmm. Parce que le propos était de parler de la Provence et de revenir au cœur de notre culture provençale, artistique. Et donc on a commencé par des contes traditionnels que je raconte depuis fort longtemps, et même à l'étranger, dans différentes langues. Et il s'est passé des choses tout à fait merveilleuses, par exemple à Alos et à d'autres endroits, où des gens m'avaient entendu 30 ans auparavant. Et ils sont revenus écouter les mêmes histoires. Et ça, c'est des moments tout à fait délicieux pour parler du vécu avec ça. Ensuite, il y avait un autre spectacle qui, pour moi, est au cœur de la Provence, puisque c'est un texte de Jean Giono, qui s'appelle « Il n'y avait plus qu'à marcher », qui est un texte qui m'ébouriffe et que je donne avec, justement, le percussionniste-batteur dont je viens de nommer le nom, Samuel Bobin. On a monté ce spectacle-là par amour de ce texte, tous les deux. Et là, ça a été deux moments tout à fait merveilleux. Le plus étonnant était au Revez du Bion, où nous avons joué au cœur du village. Mais vraiment, je n'avais jamais contacté de si près le cœur d'un village. Alors, si vous allez au Revez du Bion, vous verrez, il y a la fontaine du village, là, un croisement, plusieurs routes qui passent. Et puis un petit espace encaissé devant la frontière. La fontaine qui est une frontière entre le liquide et le solide, entre le rêve et la réalité et la veille. Et dans ce cœur-là qu'on a senti palpiter, on a impulsé Giono, et comme c'est son pays, pour moi c'était un moment délicieux. Il y a eu d'autres moments tout à fait merveilleux parce que les sites ont été choisis avec soin. Ainsi à Turier, on avait le monde à nos pieds, etc. Je ne peux pas nommer tous les moments, mais chers auditeurs, la prochaine fois, ne ratez pas les rencontres de la parole.
Il y a eu aussi donc un spectacle sur Frédéric Mistral.
Aussi, oui, il est vrai qu'on ne peut pas parler de la Provence sans parler de Frédéric Mistral, bien que ce ne soit pas une approche... Frédéric Mistral n'a pas eu d'approche orale, mais littéraire de la langue provençale, et c'est en ça qu'on doit lui rendre hommage. Il a quand même fait partie des prix Nobel, et c'est uniquement en provençal et à cause de Mireille Haut en provençal que ça a été prix Nobel. Donc effectivement, j'ai donné aussi deux fois une espèce de parcours de l'œuvre de Frédéric Mistral, trois fois même. Et chaque fois c'était un délice, parce que même les petits enfants ont pu accrocher à une œuvre qui, pour eux, pourrait être austère.
Donc ce soir, le rendez-vous, c'est à Saint-André-les-Alpes, au jardin de la mairie, à 21h, avec trois musiciens, donc Samuel Bobin, batteur, Olivier Dambeza et Alexandre Maurier, guitare et polyinstrumentiste. Alors moi, j'aimerais bien savoir ce que c'est, par exemple, l'orgue à bouche chinois.
Bien, je ne peux pas vous en dire plus, parce que je ne peux pas vous limiter, c'est, ça fait une espèce de... Bon, ça ressemble, si vous voulez, comme instrument occidental au flageolet. Et le Ravanathan est un instrument à cordes du Rajasthan. C'est un instrument des nomades. Et il se joue avec un archet sur une corde en crin et un bourdon. Et il y a des cordes de résonance. Alors le musicien passe d'une corde à l'autre et fait résonner ainsi toutes les cordes de résonance qui sont sur une toute petite noix de coco avec une peau tendue. C'est un instrument minimaliste, mais qui produit un son complètement céleste, justement à cause des cordes de résonance.
Donc ce soir, c'est la soirée de clôture, après quand même de nombreuses soirées un peu partout dans le département. Vous avez découvert des lieux, déjà
Non seulement j'ai découvert des lieux, mais j'ai découvert des compétences extraordinaires dans les gens qui ont organisé ce festival.
Oui.
Parce qu'on est bien rigolos, nous autres les artistes, à faire les pingouins devant le public. Mais quand même, faut qu'ils viennent, le public, et ça c'est un métier. Non seulement il faut qu'ils viennent, mais il faut qu'il ait l'endroit pour écouter, et qu'il soit reçu dans des conditions optimales, et c'est chaque fois ce qui s'est passé. Alors là, c'est un grand coup de chapeau à toute l'équipe organisatrice, que ce soit la médiathèque, les gens qui nous ont reçus, et voilà, merci des millions de fois à tous ces gens-là qui se décarcassent pour que ça se passe bien.
C'est fatigant de compter tous les soirs des lieux où il faut faire des kilomètres. Bon, même si on vient vous chercher, ou vous avez votre roulotte.
Je suis autonome.
Autonome, oui, parlez-nous de cette...
Je suis autonome, mais c'est une autonomie bien factice, parce qu'encore une fois, un artiste, il est autonome, il fait le malin, il est sur la scène, tout le monde le regarde, mais attends, qui est-ce qui amène les projecteurs, qui est-ce qui amène les chaises, qui est-ce qui convoque le public? Alors, c'est une autonomie tout à fait imaginaire.
On a toujours besoin, même en tant qu'artiste, d'une équipe solidaire, de bénévoles souvent aussi.
Mais c'est ça, de bénévoles et de gens compétents. Mmh. Je ne veux pas dire que les bénévoles ne soient pas compétents, mais là, il y a un chauffeur qui est allé me chercher à Saint-André-des-Alpes et qui va me ramener. Mais ce mec-là, il conduit très bien, on est arrivé à l'heure, on repartira à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de l'équipe.
Alors, le micro, Mick.
Moi, j'avais juste une curiosité tout à fait personnelle. Comment, Jean, en êtes-vous venu à participer musicalement au spectacle? Parce que, sauf erreur de ma part, vous vous amusez beaucoup quand même dans ce jeu avec les musiciens, et ça n'est pas l'image que j'avais de vous.
Vous ignoriez mes absences de talent de musicien. Mais c'est normal, je l'ai longtemps caché. C'est-à-dire que j'aime énormément la musique, c'est une chose qui me transporte. Bon, mais ça, c'est facile. D'ailleurs, vous qui écoutez, virgule, chers auditeurs, point de suspension, si vous n'aimez pas la musique, fermez votre poste. Mais si vous continuez, avouez que d'écouter, c'est une chose merveilleuse. On est ouvert à des univers qui se déroulent dans notre imaginaire et qui n'ont pas de fin et qui se renouvellent. C'est pas beau, ça? Et donc, pourquoi je suis venu à... Pas vraiment à la musique, mais c'est des percussions. J'utilise un boraun, qui est un instrument de percussion, disons, celtico-irlandais, belge-breton. J'ai dit belge au passage, parce qu'il faut savoir que l'origine des Celtes, c'est la Belgique. C'est les Flandres. Enfin, peu importe. Je suis venu là parce que j'ai rencontré un musicien breton Dominique Beven, avec qui nous avons commis tous les deux un spectacle de contes et musique celte, et qu'il était impossible qu'il soit seul à jouer de la musique, et qu'il m'a initié adorablement à cet instrument de percussion que j'adore aussi. Et puis ensuite, on s'est adjoint pour ce spectacle un violoniste extrêmement talentueux qui s'appelle Jean-Christophe Salmi. Et nous allons recommencer un autre spectacle, justement, sur ce monde celte, musical et de conte, grâce à des documents que m'ont très gentiment prêté une personne qui avait fait un doctorat sur le monde celte. Ça s'appellera Celtes et Gaulois, un prochain spectacle.
Celtes et Gaulois, et pour retrouver, bien sûr, on peut aller sur votre site pour avoir l'actualité de tous vos passages dans le département et les autres départements.
Tant que vous voulez, pour la France et l'étranger.
Ouais. Vous avez donc une roulotte avec
vos cadeaux. Écoutez, c'est pompeux de dire une roulotte, c'est en fait une très très vieille caravane des années 60. Que j'ai profondément customisé.
Ouais.
Et qui ressemble effectivement à ce qu'on pourrait appeler une roulotte. Enfin, une caravane, quoi. Voilà. En deux couleurs, aubergine, tilleul. Alors, si vous la voyez passer, virgule, auditeur chéri, eh bien, vous verrez, c'est la mienne.
Et puis, vous avez aussi construit un théâtre ambulant dans un bus,
oui, c'est
ça?
Oui, il s'appelle le Théâtre Volant.
Théâtre
c'est
Volant.
Effectivement un théâtre itinérant dans un autocar. Avec, une fois qu'il est installé, place d'orchestre, place de balcon, etc., etc. Un véritable petit théâtre à l'italienne.
Combien de temps vous avez mis pour confectionner ce théâtre à l'italienne? C'est
temps,
du
madame,
travail.
Le temps, madame. Quelle importance.
Quelle importance. En tout cas, vous continuez à...
À parcourir l'Europe avec,
ouais.
Oui. Oui, et c'est un grand délice. D'ailleurs, j'étais juste avant de venir... pour les rencontres de la parole, j'étais dans le Kéra, à Ristolas, et où ça a été totalement merveilleux, dans un camping vraiment d'une autre dimension, où les restaurants du camping sont dans des yourtes. Il y a des bains suédois en plein air. Mmh. On se trempe dans une eau qui est à 30 degrés, et on regarde les étoiles. Et puis après, on va se tremper dans le gil. Hop! Et puis on revient dans l'eau chaude. Enfin, on peut faire ça. Et là, j'y suis resté du 5 au 15 août. L'an dernier, j'étais passé une petite semaine. Et puis ça avait été tellement merveilleux que cette année, ben voilà. Et on a fait plein tous les soirs. Voilà.
On fait une petite pause avec le groupe dont vous avez envie.
Alors, les trois musiciens qui m'accompagnent sur ce spectacle et sur d'autres, parce que c'est le troisième spectacle que nous faisons ensemble, font partie d'un groupe qui s'appelle Pumchak.
Et on va écouter donc Traveling All Alone.
tutta la che hai visto non c'è avendo, c'è avendo, oh, all alone. We'll see in the weekend, ma visto that I'm a spirit, c'è avendo, c'è avendo, oh, all alone. Praise it to heaven above.
Boom Jack nous chantait Traveling All Alone, un groupe dont quelques musiciens participent.
Le batteur et les deux guitaristes.
Voilà. Et ce soir, donc, on peut écouter Le Chant des Possibles. C'est à Saint-André-les-Alpes, au Jardin de la Mairie, à 21h avec Jean Guillon et les trois musiciens Samuel Bobin, batteur, Olivier Dambeza et Alexandre Maurier, guitariste et polyinstrumentiste. Et le temps devrait être beau, donc il n'y aura pas de problème. Vous n'avez pas eu de...
extérieur, jamais.
Jamais.
Une fois seulement, nous avons dû nous réfugier dans une église.
Oui.
Et comme on était à côté du baptistère, ça s'est bien passé.
D'accord.
Je ne vois pas la relation de cause à effet, mais soudain, ça s'est imposé.
Donc, ce sera la soirée de clôture des 11e rencontres de la parole dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. Et bien, avant de nous quitter, on a encore du temps et j'aimerais que vous nous offriez un conte ou deux.
Vous exagérez.
Heureusement
qu'il y a des spectateurs, des auditeurs. Alors c'est à vous que je dédie cette histoire, auditeur chéri. Montez un peu, voilà, juste impeccable, vous m'entendez bien là?
Oui.
Alors imagine, mais c'est pas à vous que je pose la question, c'est aux auditeurs.
Mais je suis auditrice aussi.
Ah bon, pardon. Cette histoire est pour moi un portrait, une photo, un aperçu du conte aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que elle m'a été racontée en Belgique par une conteuse irlandaise. C'est un conte japonais et je suis marseillais. Et ici, je viens vous le raconter. Donc, comme je vous l'ai dit, ça se passe au Japon. Au Japon médiéval, évidemment, celui de Kurosawa. Et à cette époque-là, les conteurs étaient reçus dans les villes et les villages et ils pouvaient rester le temps qu'ils racontent et repartir avec, dans leur musette, assurés 3 jours de nourriture. Bon, c'était comme ça, comme on marchait à pied, ça représentait une certaine distance jusque généralement la ville voisine ou proche. Mais un jour, un conteur a épuisé ses provisions et il sait qu'il est à plusieurs jours de marche de la prochaine ville où il sera certainement accueilli, mais il faut qu'il marche plusieurs jours, à moins qu'il fasse un léger détour et qu'il s'arrête dans un endroit très particulier qui est une école de samouraïs où un grand maître enseigne. Et il sait que s'il provoque un élève au sabre et qu'il gagne, eh bien, il aura une semaine de nourriture. Alors là, vraiment, ça le titille parce qu'il a très faim, mais il n'a jamais touché un sabre. Le pauvre idiot. Mais la fin justifie les moyens. c'est bien connu. Et il y va. Il tape à la porte, à l'intérieur, il y a le concierge qui est en train de faire ses comptes avec le boulier qui entend taper. C'est pas du tout l'heure des livraisons, il sait bien que c'est un mendiant qui tape, il répond pas. L'autre insiste. Alors il ouvre le guichet, il dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Et le compteur de dire « Je veux me battre en duel contre le grand maître. » Oui, d'accord, il referme le guichet, c'est pas la peine. Et il continue, il tape à nouveau, il exaspère le gardien, le concierge, qui finalement le laisse entrer. Il dit « Mais c'est toi là, je vais en parler au maître, on verra bien. » Mais pour en parler au maître, il traverse toute l'école. Il passe par la salle où les élèves s'exercent avec des grands bâtons, pim-pam, pim-pam, pim-pam. Il voit passer le concierge, c'est pas son heure, il s'étonne, surtout qu'il voit qu'il va dans la direction de la chambre du maître, et qu'il atteint comme ça, le maître est assis, alors vous imaginez un maître samouraï, hein. Je vous laisse imaginer, il y a à côté de lui deux bougies dont la flamme monte tout à fait lentement jusqu'au plafond, et quand le gardien arrive, il est tellement perturbé que les flammes se mettent à bouger comme ça, et le maître ouvre les yeux, il dit « qu'est-ce qui t'arrive ?» et il explique, voilà, il y a un mendiant, un conteur, qui vient te provoquer en duel. Très bien, dit le grand maître, ça ne me pose aucun problème.
Évidemment, ils n'ont pas d'état d'âme, les samouraïs. Ça, c'est pas...
Et voilà que l'école est retraversée par le concierge suivi du grand maître, mais là, cette fois, ça fait un effet très différent. C'est-à-dire que tous les élèves les suivent et ils vont se mettre autour des fenêtres de la salle du duel, qui est une salle carrée en bois avec des fenêtres, et toutes les fenêtres sont occupées par les visages des élèves qui veulent voir le combat du grand maître. Qui entre, se met à sa place, on fait entrer l'autre mendiant de compteur, là. Le concierge va chercher un sabre, il le tend au compteur, et le compteur décline l'offre, il dit donc, je me battrai sans sabre, à la stupéfaction générale. Et ma foi, le concierge se retourne et regarde le grand maître qui dit, ben, très bien, il se bat sans arme, moi je m'en fous. Alors il se retire à marcher à reculons comme ça, le grand maître esquisse le pas que l'on connaît en faisant un bruit de soie et d'étoffe comme ça. Il sort le sabre qui glisse sans bruit de son étui, lève le sabre et au moment où il a le sabre levé, le conteur lui dit « Je connais une maison dans la montagne avec une fenêtre ouverte et la porte entrebâillée. À l'intérieur, une femme pleure. » Et quand il a fini de parler, le grand maître dépose son épée au pied du compteur et lui dit « Tu as gagné. » Vous imaginez la tête de tous les élèves autour et celle du gardien, du concierge. Alors il se retourne vers eux et leur explique « C'est très simple, je vous ai dit qu'au combat, il ne faut pas être distrait un quart de seconde. Cet homme m'a distrait pendant 17 secondes. »
Merci Jean-Guillon.
Oui, c'est un peu une histoire géographique pour les conteurs. Ça veut dire que la parole est plus forte que l'arme. En tout cas, quand on dit « Monsieur le Président de la République » ou n'importe quel personnage important a dit,
pareil, il a dit, il n'a pas écrit.
Voilà, enfin, chacun vend ses salades.
Est-ce que, Christiane, vous avez des choses à nous dire avant de nous quitter? Vous avez vu donc presque tous les spectacles? Est-ce que
j'ai vu tous, sauf un, parce qu'il y a une vilaine guêpe qui a jugé utile de me piquer, mais bon, à part ça, j'ai vu les spectacles, effectivement, et je l'avais déjà vu.
Ah, donc vous les avez tous vus, donc.
Voilà, non, mais je les ai tous vus, oui, certes. Mais j'ai découvert les facettes multiples de cet homme, de cet humaniste, on va dire. Et c'est vrai que pour moi, les conteurs sont quand même des magiciens. D'abord parce qu'ils provoquent chez nous ils créent des images en nous. Donc déjà, voilà. Et puis ensuite, parce que ce sont des leçons de sagesse, ce sont des histoires de passage, la transmission n'est jamais très loin. Et ce que j'ai adoré avec ces rencontres de la parole, c'est la façon dont on a traversé tous les pays, toutes les spiritualités, et toutes ces rencontres, eh bien, elles ont juste montré que parfois un conte, il vient de l'autre bout du monde. Et on retrouve le même personnage à l'angle de notre rue, dans une autre, parole et une autre bouche. Et je trouve que, voilà, c'est pour ça que travailler autour du conte m'aura été un immense plaisir, autour du conte et de l'oralité, et donc de l'écoute des grands conteurs aux plus humbles qui nous emmènent chaque fois dans une dimension de notre propre profondeur. Je ne sais pas si ce que je dis a un sens, mais voilà. Donc c'est vraiment, pour moi, ça a été aussi une quête, hein, et un chemin, peut-être un chemin de spiritualité, tout simplement. Monsieur Guillon, dis-je beaucoup de sottises?
Alors, on va revenir à Jean Guillon.
Ce que dit Christiane Belœil est très important, et ça, à mon sens, ça touche tout le monde artistique. C'est-à-dire que le monde artistique, pour moi, l'œuvre d'art en général, l'œuvre d'art est une transparence qui vous renvoie à vous-même. Bon, ça y est, je finis de dire des grandes phrases. Chers auditeurs, vous avez eu la patience d'écouter jusqu'à maintenant, vous êtes tout à fait remarquables. Mais il est vrai que c'est l'écoute qui participe énormément à la qualité d'un spectacle. Merci alors à tous les auditeurs qui ont écouté le spectacle vivant et, ma foi, la radio aussi.
Donc on vous retrouve ce soir au Jardin de la Mairie à Saint-André-les-Alpes à 21h, devant la nouvelle bibliothèque. Et vous aviez envie de les remercier, la bibliothèque de Saint-André-les-Alpes, non?
Oh, je ferai ça ce soir, Odile, il n'y a pas de problème. Ce que je remercie, c'est toutes les bibliothèques du département et ces merveilleuses personnes qui travaillent.
C'était pas un hasard que vous ayez choisi Saint-André-les-Alpes pour la soirée de clôture?
Ah, ça n'est jamais un hasard, oui. Lorsque nous choisissons les lieux de conte. C'est vrai que Saint-André a créé donc une bibliothèque qui est une bibliothèque normative, qui est gérée à la fois par une équipe de bénévoles et par un personnel salarié par la mairie, que cette bibliothèque est dans l'espace général de la mairie. Et voilà, c'est une belle réalisation, ça sera un centre ressources. Bon, je ne vais pas vous reparler des bibliothèques, tout le monde sait que c'est mon dada, et que je dis et j'affirme que ce sont des espaces de liberté qui nous apprennent à penser par nous-mêmes. Et voilà, et ça c'est un acte de foi, et Monsieur Guillon me tire le micro, donc je lui donne.
Oui, parce que justement pour Saint-André-des-Alpes, je viens d'apprendre, en y allant, que Saint-André-des-Alpes a des salaires pour la bibliothèque, mais n'a pas de police municipale. C'est vraiment un espace de liberté.
On va se quitter là-dessus. Vous aviez choisi d'écouter Jean Ferrat aussi tout à l'heure. On va se quitter donc avec Oural Ouralou. Peut-être qu'il y a d'autres choses à dire avant de... Pas d'autres... Il y aurait beaucoup. Donc vous reviendrez, Christiane.
Je reviens.
Et Jean Guillon.
Au revoir.
Au revoir.